bord.
Les passagers de Aventure sont priés de monter à bord.
Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame.
Bon voyage tout le monde les amis, ici c'est votre commandeur de bord Roger Muntu, la voix de l'Amérique en direct de Washington, la capitale américaine. Un grand plaisir de vous avoir nombreux à suivre cette émission partout dans le monde où vous nous suivez. On vous dit merci infiniment et merci à ceux-là qui continuent à nous écrire sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Roger Muntu, la voix de l'Amérique, mais aussi sur notre WhatsApp au +1 703 350 37 31. Vous avez proposé cette question de la semaine, on en parle encore aujourd'hui. On écoute de la bonne musique comme on le fait d'ailleurs habituellement. Comment l'amour et les relations affectives influencent-ils notre bien-être physique et mental? On va continuer bien sûr avec cette question de la semaine, mais aussi en écoutant de la bonne musique et nos invités. Attachez vos ceintures, on décolle. Bien sûr, on parle cette semaine, on parle d'un sujet très très important parce que vous êtes nombreux à nous avoir proposé cette question de la semaine et bien sûr, pourquoi pas en parler, mais aussi répondre à d'autres questions aussi que vous posiez. D'ailleurs, c'est pourquoi nous aurons avec nous un spécialiste des questions de santé publique, c'est le docteur Michel Mouvoudi, mais aussi l'artiste Nkumu Katala, il sera avec nous, mais d'abord, on décolle avec de la musique.
I'm gone.
En train d'écouter Aram Show, une émission de Voix Afrique en direct de Washington DC, la capitale américaine. Et bien sûr, Josal, je sais pas où j'ai foutu mes lunettes, mais ça va. On va faire avec. Vous écoutez Aram Show comme d'habitude. Josal, il y a une autre chanson là qu'on aimerait vraiment écouter. Il y a une demande de notre ami. Je sais pas, Josal, tu vois la chanson I Conquer. Cette chanson a été demandée par des étudiants de l'université de Lubumbashi qui nous captent. I Conquer. C-O-N. Voilà. Si on trouve cette chanson, jouons ça parce que les enfants, les amis de Lubumbashi attendent ça en ce moment même. Ils m'ont demandé si on peut jouer ça tout de suite. Ouais, ça serait super. Merci aux amis de Lubumbashi pour ce message qui continue à m'envoyer sur ma page Facebook, mais aussi sur Instagram, mais aussi sur WhatsApp au plus 1-703-350-3731. On attend quand la chanson sera prête, bien sûr, pour l'écouter. On écoute avec encore, nous revenons dans un instant.
I conquer,
Et voilà, on a joué un peu pour nos amis qui nous captent à Lubumbashi. Les amis, vous écoutez Aram Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington DC. C'est votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Si en direct de Washington, chaque soir entre 20h et 21h temps universel. Quel plaisir, quel privilège de vous savoir tous nombreux à nous capter aujourd'hui. On vous a dit depuis le début de cette émission que nous avons des invités comme d'habitude. Et aujourd'hui, bien sûr, des invités de marque. Nous avons l'artiste Nkumu Katalay, un Congolais vivant à New York City. Nkumu Katalay est avec nous aujourd'hui. Nous avons aussi le docteur Michel Mouvoudi, hein, qui est ce qu'il s'appelle lui-même aussi Congolais au service de sa nation et de l'Afrique du monde. On commence avec docteur Michel Mouvoudi. Merci d'être là.
Merci, docteur. Roger. Merci infiniment pour l'invitation. Un très grand plaisir d'être ici avec vous.
Comment vous allez, hein, docteur?
Non, ça va. Ça va. Parce qu'on est très positif. On pense que en travaillant ainsi ensemble, on est en train de baliser le chemin pour quitter du négatif au positif. Donc, je suis très optimiste. Et je me sens très bien chaque fois que j'y pense.
C'est l'énergie. Une amie et collègue, Michel Joseph, qui est de l'autre côté. Elle aime bien les phrases comme ça. Elle est là derrière. Michel Joseph adore des phrases comme ça. Ouais, voilà. Elle adore tout ce qui est positif.
Tout ce qui est long terme positif. Ouais. Donc, voilà. Ouais. On essaie de travailler en ce sens, mais ça se crée, ça se construit. Ah. Et donc, on n'est pas spectateur pour attendre le meilleur, mais il faut être acteur pour créer le meilleur.
Ah.
Et donc, c'est comme ça qu'on est dans cette dynamique de pouvoir engager le collectif à partager des valeurs, mais aussi à se dire, écoutez, nous avons reçu cette terre, nous avons reçu un potentiel. Il est très important que chacun de nous puisse donner sa part.
Ouais.
Et donc, j'ai toujours dit, où on joue le match, où on est forfait. Donc, quand on est sous la terre, soit on quitte, on se dit, on peut pas tenir la compétition.
Ouais.
Mais lorsqu'on reste sous la terre, il faut dire, qu'est-ce que je fais?
Ouais.
Donc, n'est pas attendre. Et donc,
j'aime beaucoup de
nous
pas être
avançons
spectateur.
Comme ça. Nous avançons comme ça et j'aime bien le dire et j'en ai parlé dans mes livres. Vous commencez justement à penser à bien gérer le présent quand vous vous lancez dans le futur. Vous dites, après moi, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que je laisse? C'est comme ça que vous allez vous occuper du climat. C'est comme ça que vous allez être passionné par l'éducation. Et c'est comme ça que vous allez vous occuper de la jeunesse. C'est cette jeunesse qui monte. Vous savez, l'Afrique est en train de se rajeunir.
Ah, mais ça aussi.
2 milliards de personnes d'ici 2040. La moitié sont des jeunes. Vous avez un pays comme la RDC, 120 millions bientôt. En 2030.
Wow.
55% jeunes adolescents. C'est une richesse. Si on y investit. Mais si on n'y investit pas, écoutez, ces enfants vont devenir des agresseurs, vont être des revendicateurs de tout. Et donc, du coup, nous avons un potentiel. Mais si nous voulons que le long terme soit propice, il faut travailler avec cette jeunesse. Il faut qu'elle prenne conscience que, en fait, c'est elle qui devient le moteur de demain.
Exactement.
Et c'est ça ma passion. Au-delà de donner des soins pour que les gens soient en bonne santé. Mais je passe mon temps, justement, à remuer les fibres dans la jeunesse pour leur dire, écoutez, prenez-vous en main. Et comprenez que vous devez vous assumer, que vous devez gérer votre vie comme une entreprise et que tout ce que vous avez, c'est votre vie. Et donc, dans votre vie, c'est une société où vous pouvez tout créer. Donc, la richesse, l'argent, c'est un résultat. C'est une conséquence.
La richesse et l'argent.
C'est une conséquence. Donc, ne voyez pas la richesse, ne voyez pas l'argent comme quelque chose qui tombe. Donc, tous ceux qui sont devenus riches, tous ceux qui ont réussi, la réussite, c'est une conséquence d'une discipline en amont, d'un engagement personnel, d'une volonté à pouvoir réussir, d'une détermination, d'une vision qu'il faut fixer. Il y a pas longtemps, j'ai discuté avec des jeunes, je leur disais, vous savez, dans la vie, il faut dire ce qu'on veut devenir et ce qu'on va devenir. Donc, il faut pas, quitte à se tromper, mais il faut dire, moi, je vais devenir X. Moi, quand j'étais jeune, je disais, je serais médecin. On m'a dit que c'était
déjà.
Ouais, c'était compliqué.
Mais quelqu'un m'a dit que ça serait difficile.
C'est très compliqué parce que, voilà, tout le monde échoue, l'anatomie. Mais parce que j'avais cette vision, et donc, je me suis concentré à travailler en fonction. En d'autres termes, lorsque vous définissez ce que vous allez devenir, c'est comme ça que vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais avec mon argent? Parce qu'en fait, ce sont les idées qui amènent les moyens et non l'inverse.
Mais docteur Michel, est-ce qu'il y avait un modèle?
Alors, c'est vrai qu'il y avait des modèles. À l'époque, moi, j'étais toujours fasciné par des médecins de la Gécamines. Des gens que je voyais habillés en tenue verte, en train d'opérer.
Et les témoignages.
Exactement. Donc, je me disais, mais ça me ferait bien aussi un jour de redonner vie et de réparer ce qui est abîmé. Et donc, j'ai commencé à poursuivre ce chemin. Mais à un moment, il faut avouer, Roger, que la situation économique, sociale était devenue très, très précaire, que j'étais même pas capable de pouvoir soutenir mes études, ni mes parents. Mais parce que j'avais cette conviction, parce que j'avais en amont cette détermination d'être X, ben, j'ai fait les répétitorats pour payer mes études. Je me suis dit, je vais enseigner le soir pour que, à la fin du mois, je paye mes études. Et c'est comme ça que je suis arrivé à être médecin. Et c'est ce que j'ai dit aux, aux jeunes tout le temps. Soyez toujours animés par un idéal. Et tous les grands chemins sont, sont difficiles. Donc vous ne verrez jamais une victoire facile. En tout cas, si elle est grande, elle ne sera pas facile. Et il faut pas attendre. Vous n'avez pas le droit de d'attendre. Vous n'avez pas le droit de dire, moi, ce que je deviens, c'est parce que quelqu'un va, va le déterminer.
Ouais.
Ce que vous devenez, c'est votre engagement, c'est votre courage. Et je suis très content de voir que de plus en plus, il y a des témoignages qui fusent, hein, des jeunes qui reprennent conscience, qui se laissent plus phagocyter par les mensonges, par la, 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 la politique de rue, et qui aujourd'hui deviennent médecins, ingénieurs, qui créent des entreprises, et qui commencent par, par un système de potentiel de relèvement aussi, à donner le bâton aux autres. Et je pense que si on travaille comme ça, si on est nombreux à aller dans cette, cette dynamique, ben, écoutez, nous allons inviter les gens à venir voir ce qu'on a fait.
Ah.
Au lieu de dire, il faut quitter, partir, parce que ben, ce pays ne marche pas. Et moi, j'ai dit toujours aux gens, mais quand vous dites que ce pays ne marche pas, qui doit faire marcher ce pays? Donc, c'est nous, c'est notre responsabilité collective.
Oui,
voilà.
Donc, très important.
Et on a du potentiel humain, et je crois qu'on en a, il faut juste y investir.
Je pense, docteur, que vous avez vraiment bien, bien, bien placé tout. Toutes nos questions sont déjà là. D'ailleurs, je vous présente notre mon collègue Georges Léonard Sagnon de VOA. Georges, c'est docteur Michel Mouvoudi.
Merci, bienvenue.
Bien sûr.
Heureux de vous recevoir sur VOA.
Heureux d'être reçu aussi. C'est vraiment réciproque.
Et docteur Michel, vous avez parlé de la jeunesse. Hein. Lui, il n'aime pas qu'on l'appelle jeune, mais il est toujours jeune. Nkoumou Katala ici. Il n'aime pas qu'on l'appelle jeune, mais moi, j'appelle toujours jeune.
Oui, c'est l'état d'esprit.
C'est un état d'esprit.
C'est l'état d'esprit.
Nkoumou Katala ici, un jeune qui fait la fierté des Congolais ici. Aux États-Unis et en particulier à New York City. Il vient de faire quelque chose qui est très 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 important pour tout le pays, tous les Congolais. Pour la première fois, le maire de New York, un maire qui est très connu ici aux États-Unis, vient de lever le drapeau congolais tout haut, vraiment dans la ville.
Quelle fierté nationale.
Et l'organisateur, l'homme derrière tout ça, c'est Nkoumou Katalaï, un artiste, un professeur, un enseignant, tout ce qu'il fait. On doit applaudir quand même pour... et c'est ce que je dis, cette jeunesse dont...
On a du talent.
Mais c'est ça, exactement.
On a du talent. Il faut juste oser. Il faut y investir.
Il faut y investir. Nkoumou Katalaï. Voilà. Bonjour Nkoumou.
Bonjour Roger.
Bien habillé. Ces lunettes-là vont rester ici. Le chapeau d'un Nkoumou, c'est vrai.
Au Congo, on dira Nao et Bissau.
Nkoumou Katalaï, comment ça va?
Ça va bien, merci. Et quick disclaimer, moi, je serai en franglais.
Hein. En franglais.
Des fois, quand l'anglais vient dans le français, ça entre.
Je sais, parce que vous qui venez ici trop jeune, votre langue, des fois, ça devient un peu compliqué. Là. Vous oubliez vos langues maternelles.
Je pars jusqu'à ce que je dois commencer à placer tous les articles. L'anglais vient.
Non, écoute, le français n'est pas notre langue ici. Ce qui est bien avec VOA, c'est qu'on traduit dans toutes les langues, n'est-ce pas, Georges Léonard?
Bien sûr. Ici, soyez à l'aise et dites, parlez comme vous voulez. Par contre, je vais m'exprimer en français jusqu'à ce que
vous arrêtez.
Je perds mes articles là, donc.
Non. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Mais Nkoumou, revenons un peu à notre. Parlons un peu de notre... Ce qu'on disait, ce drapeau congolais qui a été élevé, c'était quoi exactement? Dites-nous un peu. Il s'appelle Congo Rising.
Congolese Flag Raising Day.
Ok, d'accord.
Il fallait initier sous ce nom.
Ouais.
C'est une manière aussi... nous voyons, pour moi, étant artiste, tout est basé de l'art. Quand nous voyons le drapeau, il y a des couleurs représentent certains symboles. Et c'est l'art. Et en fait, l'idéal d'abord, pour moi, ma vision, c'est de souligner la contribution de la culture congolaise dans l'histoire du monde. Et dans ça, étant musicien, j'arrive à voir l'influence Congo dans plusieurs sonorités musicales que nous voyons à côté. Il y a dans l'afro-cubain, dans le jazz, dans le Caribbean music, le reggae, nous voyons tout ça. Mais c'est la question Congo qui qui a l'importance pour moi.
Pourquoi?
Donc, parce que le Congo, c'est un pays très important, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Donc, à travers l'histoire de l'esclavagisme, le Congo a pu amener plusieurs de ses enfants de ce côté, à cause de nous voyons des sonorités musicaux que je viens de dire ici.
Ouais.
Et deuxièmement, même en Afrique, le Congo a de lui-même peut nourrir l'Afrique et le Congo nourrit déjà le monde entier comme nous sommes là. Donc c'est un pays, parlons du climat, le président a noté dans ses speeches aux Nations Unies,
le président congolais,
il a noté l'importance de la forêt du Congo d'absorber le carbone. Donc nous émettons presque rien mais nous absorbons presque tout. Donc c'est encore un terrain très stratégique en plusieurs volets. Étant un artiste, je vois que le Congo est bourré de plusieurs cultures, ethnicités, plusieurs genres de musique, plusieurs genres de sculptures, artifacts. Donc le Congo est dynamique. Donc pour l'Afrique, c'est les gâchettes de l'Afrique. Donc l'Afrique a besoin du Congo, le monde a besoin du Congo. Donc c'est maintenant la question Congo devient importante pour tout le monde parce que nous y sommes tous du Congo. Artistiquement, matériellement, dans tous les aspects, le Congo est important pour l'humanité et pour le monde. Donc et quand c'est comme ça, pour moi, en grandissant, parce que je fais le droit pénal international ici, International Criminal Justice, il y avait un temps, on disait que le Congo, le rape capital of the world, étant artiste, ça m'a tiqué, mais comment le Congo que moi je connais, on peut nommer ça le capital du viol dans le monde. Je ne pourrais pas tenir. Donc, artiste, c'est devenu mon devoir encore, malgré que ma vision déjà souligne la contribution de la culture congolaise dans l'histoire du monde. C'était devenu un devoir pour moi de montrer ces Congos positifs, ces Congos que nous connaissons, ces Congos qui a plusieurs cultures, ces Congos qui est dynamique. Donc, c'était devenu un devoir pour moi étant un artiste. Mais j'ai compris aussi, on peut répondre à ta question si tu es connu. Cette narrative de rape pour le Congo, c'était pas une bonne. It was not a good narrative.
C'était pas un bon. Ça ne donnait pas une bonne image pour le pays.
Pour le pays. Ouais.
Approchez-vous du micro, comme ça on vous attend très bien.
Et ça ne donnait pas une bonne image pour le pays.
Ouais.
Et de deux, c'est pas vrai pour mon Congo. Je sais que oui, ils ont utilisé le viol comme un instrument utile de guerre. Ils ont utilisé ça, mais pour moi, un Congolais qui connaît que nous avons des cultures dynamiques, nous avons un Congo qui est fort. Et ton artiste, j'ai commencé à pousser, à rappeler au monde que le Congo, c'est intéressant. Le Congo, c'est le Congo de Papa Wemba. Le Congo, c'est le Congo de Tabulaï. Le Congo, c'est le Congo de Zingankuvu. C'est le Congo de Simo Kimbangu. Et je devais traduire tout ça à la chanson, à la danse et tout ça, pour donner accès aux autres. Et en donnant accès, ça donne... ça facilite la question Congo de trouver la réponse.
De trouver la réponse.
Et il y a plusieurs manières de pousser la question Congo devant les gens. Et dans cette même astuce d'idée, l'idée de flag raising, et on a un maire maintenant, maire Eric Adams, il a vite fait vite compris la communauté africaine à New York, il est là pour vous.
Il l'a dit dans son discours.
Oui.
Ouais, ouais.
Et travailler. Et don't hold back, il faut pas don't hold back who you are.
Josette, je suis pas sûr qu'on peut voir les images de Nkoumou, s'il te plaît, derrière la caméra, comme ça il peut nous dire un peu ces images qu'on regarde, qu'on va voir ici. Nkoumou, ça c'est quoi exactement ce qu'on est en train de voir derrière?
Par contre là c'est
le président,
Tshisekedi qu'on voit là. Tshisekedi, après notre conversation, quand j'ai vu le président, je lui ai dit voilà monsieur le président, c'est moi qui ai initié cette initiative de soulever le drapeau du Congo. Et le président a posé quelques questions. Il m'a remercié. L'institution du Congo, monsieur le président Tshisekedi, m'a remercié.
Qu'est-ce qu'il a dit exactement?
Il a dit que c'est une bonne initiative. Et vraiment, nous sommes fiers de toi. Le pays est fier de toi. Et il faut continuer. Après, il m'a posé encore la question. C'est quoi encore ton nom? Et moi, j'ai dit c'est Nkoumou Katalay. Ah, Nkoumou Katalay. Donc, good job. Bravo. Donc il m'a remercié, il a encouragé, il n'a pas manqué de noter que ce sont des choses positives que nous aimerons voir quand il s'agit de notre pays.
Quand
donc,
il s'agit, ouais.
Georges,
je te vois
déjà. Vas-y, Georges, j'ai une question. Ndeko, merci, bienvenue, Sangoboni.
Malam.
C'est le seul Guinéen qui parle l'Igala ici.
À RM Show, on parle toutes les langues. Et voilà, comme vous l'avez dit, le Congo, moi je l'appelle le géant de l'Afrique, c'est le grand marigot africain. Quand il tarit, toute l'Afrique s'arrête de respirer. Et donc, merci pour cet acte de bravoure, n'est-ce pas, d'émancipation que vous avez fait. Mais je voudrais qu'on aide les auditeurs à mieux comprendre. C'était à quelle occasion et dans quel carrefour de New York ou à quel endroit exactement de New York se situe
voilà un New Yorkais qui parle.
Ce drapeau, parce que nous sommes tous de New York.
Hein. C'est un New York.
Est-ce que c'est à Broadway?
L'aspect là, c'est très important parce que c'est vers Bowling Green.
Bowling Green, non loin de la mairie, c'est ça? C'est au niveau de la mairie de New York.
Non, c'était dehors, stratégiquement, là où le drapeau a été soulevé. C'est le dernier drapeau, le dernier drapeau british. Était quand l'Amérique a gagné la guerre de la libération, le dernier drapeau, là où le président Washington est venu enlever le dernier drapeau de British, c'est le même endroit. Si vous remarquez, même le drapeau qui est soulevé n'a pas les 52 États, genre, c'est le drapeau qui représente le même drapeau qui a été soulevé à ce temps-là quand l'Amérique a déclaré son indépendance. Donc c'est à ces coins-là aussi, à plusieurs des esclaves qui ont été vendus, ils étaient vendus à ces coins, plusieurs ont trouvé la mort, inclus le Congolais dans l'histoire. Donc, il y a the burial ground, slave burial ground, qui est juste à côté, pas loin. Et donc, ça symbolise un full circle aussi, historiquement, pour honorer pas seulement nos contributions, les contributions du Congo aujourd'hui, mais historiquement aussi. Et l'endroit est stratégique à cause de tout ce qui s'est passé à cet endroit-là. Donc, soulever le drapeau du Congo, le mettre en juxtapose avec le drapeau de l'Amérique.
De l'Amérique, de l'Amérique, oui.
C'était une manière, pas seulement de rappeler aux gens l'histoire américaine qui était fondée là, mais que l'Amérique aussi puisse honorer les autres qui ont contribué d'une manière ou d'une autre.
Et est-ce qu'au moment où on parle, le drapeau congolais flotte encore à cet endroit?
Bon, malheureusement...
C'était juste à l'occasion.
C'était juste à l'occasion et j'ai mis la pression à la mairie parce que il y avait les Anga qui se
oui, l'Assemblée générale des Nations Unies.
On a manqué notre première occasion qui était pendant l'indépendance de la RDC et j'ai vraiment insisté parce que je me suis dit, pour moi, j'insiste à la question Congo. La question Congo, si on met le Congo en ampleur, la question Congo devient plus facile pour les autres de comprendre. Il y a plusieurs situations complexes qui se passent au Congo. À région même le docteur
Michel.
On a la jeunesse qui est là-bas. Ouais. Il a besoin de nous autres qui sont dehors. Et le plus que nous soulevons le drapeau congolais,
c'est pourquoi j'ai dit
ça
voilà,
met la question Congo.
Exactement.
La question Congo
en avant.
En avant.
Vous êtes à féliciter.
Ouais, restez avec nous les amis. On va prendre un petit break dans un instant de RM Show. Après 30 minutes, on prend un petit break pour revenir en deuxième partie. N'allez nulle part ailleurs parce que RM Show va continuer, bien sûr. RM Show, c'est chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Quand nous revenons, nous allons aussi déguster de la bonne musique de Nkumu Katalay parce qu'il n'élève pas seulement les drapeaux, mais il fait aussi de la musique, bien sûr. Donc, on va écouter de la bonne musique de Nkumu Katalay, qui est l'artiste avec nous ce soir ici dans RM Show. Vos questions aussi sur ma page Facebook ou au plus 1 703 350 37 31. Dieu bless. Peace Africa.
Les amis branchés sur la voie de l'Amérique d'un pays d'Haïti, pas raté, vol ça chaque après-midi avec Roger Montou, RM Show, son avion qui est un bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sa dame. Roger Mundo, RM Show, sur la voie de l'Amérique. Bienvenue. À part le site, on a ce qu'il y a à toi. En tout cas, RM Show, hein. La liste à cause, alors, à part, on a tout à cité. À part, nous.
Oui, yo, dis-moi la parade de RM Show, mané.
Chers passagers de RM Show, on décolle.
Hey, hey, this is RM Show.
Let's go, les amis. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique en direct de Washington, D.C., la capitale américaine. Aujourd'hui, une émission full, parce que quand Georges Léonard Sagnon est là, bien sûr que l'émission doit être full. Et bien sûr, nous avons aussi le docteur Michel Mouvoudi, qui est notre invité. Quel honneur de l'avoir. Et il va nous dire pourquoi il est là exactement. On n'a pas eu le temps de bien développer l'artiste Nkoumou Katalaï. D'ailleurs, on déguste sa musique parce qu'il est avec nous ce soir. On écoute cette superbe chanson de Nkoumou Katalaï. chanson de l'artiste Nkoumou Katalaï que vous écoutez. On applaudit très fort pour notre invité Nkoumou Katalaï, ce morceau qui nous fait bouger. Quelle créativité! Mais vous, les artistes, là, vous vivez comment, hein? Comment vous créez tout ça, Nkoumou?
Il faut permettre à Dieu de travailler dans toi, c'est tout.
Les chrétiens diront amen.
Amen, amen.
Alors, nous revenons sur mon invité, le docteur Michel Mouvoudi, très, très expérimenté en leadership, mais je le disais aussi, spécialiste des questions de santé publique, de couverture sanitaire universelle, de financement et de la santé et de développement humain, avec une expérience nationale et internationale de plus de 20 ans, chercheur sur le système de santé, sur le leadership, je le disais, et sur le développement humain. Michel Mouvoudi est formateur, encadreur individuel et organisationnel en leadership, en management et dans la mise en place des contrats de performance. Il dispose d'une expérience à tous les échelons, en tout cas, hein, de la pyramide sanitaire, district sanitaire, administration provinciale, niveau national, en RDC et dans plus de 10 pays au monde. Il est également chef de file du sous-groupe financement du groupe Interbayer Santé. Je pense que c'est Gibbs, ça se dit Gibbs ou Gibbs. Voilà, merci de la RDC, mais aussi parmi les pionniers du financement basé sur la performance FBP en Afrique et du contrat unique en RDC. Docteur, c'est beaucoup d'expérience, docteur Michel. Ma question un peu... sur ce côté financement, le financement de la santé est un sujet critique aujourd'hui. Exactement. Pourriez-vous nous donner un aperçu de votre travail dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne le financement basé sur la performance, hein, en Afrique?
Ouais. Exactement. Donc, d'abord, avant d'entrer dans les détails, hein, donc je veux d'abord très vite vous donner un aperçu sur ce qu'on appelle le financement de la santé.
Oui.
Il y a deux pôles à bien maîtriser. D'abord, le premier pôle, d'où vient l'argent qui finance le système de santé.
Ouais.
En fait, on a ce qu'on appelle le trépied de financement de la santé. Mmh. Donc, vous avez d'abord l'argent qui vient de l'État, ce qu'on appelle la contribution de l'État au système de santé. Vous avez la deuxième source, c'est tout ce qui est aide publique au développement. Donc, les ressources extérieures données dans les cadres des appuis, des partenaires comme la Banque mondiale, l'Union européenne, ainsi de suite. Et la troisième source, sont les ménages, donc la population. Parce que quand vous êtes malade, vous payez les services, en fait, vous contribuez aux services de santé. Alors, en Afrique et principalement en RDC, sur ces trois pôles, ben, vous avez quand même des défis sur lesquels il faut beaucoup travailler. D'abord, aujourd'hui, il faut avouer que on est dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, notamment en RDC, où le budget de l'État alloué à la santé est très faible. Selon les accords des chefs d'État de 2001 à Abuja, au Nigeria, il était prévu que les États allouent au moins 15% de leur budget total à la santé.
15%.
La RDC, on n'a jamais dépassé 10%.
Oh là là, wow, ça, c'est un problème.
Pour un grand pays aussi comme ça. Oh là là. Justement. Donc, on est parmi les pays où le secteur de la santé est très sous-financé par le gouvernement. Alors, ça, c'est le problème majeur, hein. Et même quand vous regardez le peu de ressources qui viennent de l'État, elles sont très mal utilisées parce que, bon, elles financent principalement les ressources humaines et vous verrez pas grand chose sur le fonctionnement, pas grand chose sur les investissements. Alors, vous prenez la partie aide publique au développement. Le grand défi, c'est la fragmentation, hein. Donc, vous avez une très forte incoordination de tout ce qu'on donne. Donc, vous arrivez dans une zone de santé ou dans une province, vous voyez que tous les partenaires sont là-dedans. Ils donnent parfois la même chose. Il y a des duplications, des doublons. Et à côté, il n'y a rien. Donc, c'est comme ça que vous assistez dans des pays comme la RDC. À gauche, c'est des pléthores de financement, c'est des chevauchements, c'est des doublons, mais à droite, c'est la pénurie. Et donc, il y a une incoordination, c'est même ça qui avait provoqué la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide publique au développement. Parce qu'on avait constaté que si on continue à donner des ressources extérieures comme on les donnait juste après d'avoir déclaré les EMD en 2000, ben en fait, on n'arrivait pas à l'efficacité de l'aide, donc on n'allait pas atteindre les résultats. C'est comme ça qu'aujourd'hui, malgré ces financements que vous voyez, ben la mortalité maternelle continue à grimper dans nos pays, la mortalité infantile continue à grimper, alors que versus, quand vous regardez les financements qui sont donnés par les bailleurs, mais vous vous dites, mais pourquoi à gauche on a des financements, mais à droite la mortalité maternelle, la mortalité infantile continue. C'est justement une question de fragmentation, d'incoordination, parce que il n'y a pas justement cette harmonisation autour de qui fait quoi et où. Où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'il y a plus de besoins et comment on fait pour que les ressources qu'on apporte puissent être alignées sur les priorités nationales. Ouais, ça, ouais. C'est vraiment ouais. un défi sur lequel, d'ailleurs, on travaille avec notamment des institutions comme la Banque mondiale où je travaille. C'est sur ça qu'on pousse pour essayer d'être un peu plus harmonisé, plus coordonné. Parce que j'ai toujours dit ça et j'en parle dans beaucoup de mes articles. Si vous ne savez pas gérer le peu de ressources que vous avez, vous n'allez pas gérer le plus de ressources que vous cherchez.
Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Je pense que.
Voilà, donc avant de dire oui, augmenter l'argent, parce qu'aujourd'hui, le débat, c'est allouer plus d'argent. Allouer plus d'argent, mais attention, mais si vous ne savez pas. Bien gérer les $100 qu'on vous donne aujourd'hui, mais comment vous allez gérer $1,000 Et c'est ça la vérité. Donc, avant de passer à l'augmentation des budgets, mais essayons d'être d'abord très efficients, essayons d'être plus rationnels pour se dire est-ce que nous gérons bien les $1,000 d'aujourd'hui pour que demain, si on a 1 million, qu'on ne puisse pas avoir des gaspillages tels qu'on les voit sur le terrain. Alors, le troisième élément, le troisième pilier, je t'ai mis par là, c'est vraiment la question de population. Aujourd'hui, il faut retenir, Roger, que nous avons d'abord une population très pauvre, hein. Donc prenons le cas de la RDC, plus de 70% de population vit dans l'extrême pauvreté. Et donc, cette population supporte à plus de 40% les dépenses en santé. Donc c'est trop. Wow. En d'autres termes, et ces dépenses, c'est des paiements directs. Ça veut dire les mécanismes assurantiels n'existent pas. 1 à 2% seulement de la population est sous mécanisme assurantiel. Ça veut dire une assurance mutuelle. Mais sinon, vous êtes malade, vous payez ce qu'on appelle out of pocket, ça veut dire directement.
Directement
et ça appauvrit. Ça fait qu'aujourd'hui, vous avez une situation d'une maman qui doit être césarisée. Ben, on vend tout. Hein. On vend le vélo, on vend les canards, on vend les chèvres.
Juste pour avoir,
et
pour
on assiste avoir une opération. Justement, exactement. On assiste justement à ce qu'on appelle les dépenses catastrophiques en santé qui, justement, drainent beaucoup des populations dans l'extrême pauvreté. Parce qu'au moment où l'urgence médicale frappe, ben, les ménages n'ont pas forcément des réserves pour pouvoir affronter les coûts des soins. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment le premier pôle sur les trois, si vous voulez bien, le premier pôle avec les trois piliers qui financent le système. Et pour chaque pilier, on a des défis sur lesquels
en parlant des
il faut
défis,
travailler.
En parlant des défis, je vais laisser Georges dans un instant, mais parlons un peu de la couverture sanitaire universelle.
Exactement.
Qui est un objectif pour de nombreux pays. Et vous avez parlé de votre pays, la RDC. Quels sont les principaux enjeux à vous entendre parler, les enjeux et défis pour atteindre effectivement cet objectif, en particulier dans les pays en développement.
Très bien. Ouais. Et donc, c'est comme si vous avez anticipé sur le deuxième pôle.
Le premier pôle,
c'était les trois.
Okay.
Mais le deuxième pôle, c'est justement ces défis liés à la couverture sanitaire universelle. D'abord, définition, c'est quoi la couverture sanitaire universelle? C'est permettre à chaque personne d'avoir accès aux soins de santé dont elle a besoin sans courir les risques financiers. C'est tout. C'est ça la définition. Donc, chaque Congolais, où qu'il soit capable d'avoir les soins dont il a besoin sans courir les risques d'approvisionnement. Alors, il y a trois dimensions dans la couverture santé universelle. Vous avez la couverture, ça veut dire couvrir le plus de personnes, qu'il n'y ait pas des gens écartés aux soins. Deuxièmement, c'est avoir un paquet de services minimum au niveau de l'hôpital, au niveau du centre de santé, accessible à chaque personne. Et troisièmement, c'est faire en sorte que on réduise drastiquement le fardeau financier. Alors, les défis sont clairs. Vous prenez la question de la dimension de la couverture. On va aller sur les trois dimensions. La dimension de la couverture aujourd'hui, nous n'avons pas des populations couvertes par des services de santé. Vous prenez la RDC, c'est 26 provinces, c'est 145 territoires. Je vous donne juste une indication. En RDC, sur les 26 provinces, par exemple, 17 provinces n'ont aucun spécialiste. Ça veut dire que vous arrivez quelque part, ni gynécologue, ni pédiatre, ni interniste, ni chirurgien. Donc sur les 26, 17 n'ont aucun spécialiste. Donc vous avez déjà le problème de couverture. Donc encore une fois de plus, aujourd'hui, si nous voulons parler de la couverture santé universelle, c'est créer des services pour faire en sorte que les gens qui habitent très loin, en milieu rural principalement, puissent être à proximité des services de santé de qualité. Ça c'est déjà la dimension couverture. Et on peut éclater ça, mais je crois que déjà ça c'est beaucoup pour dire, nous mettons en place la session RDC. On doit investir sur la couverture pour faire en sorte qu'on augmente les niveaux ou les points d'offre des services de santé de qualité. La deuxième dimension, c'est le paquet de services. Vous pouvez ouvrir un centre de santé, vous pouvez ouvrir un hôpital, mais qu'est-ce qu'on offre à l'intérieur? Le constat est tel qu'aujourd'hui, les gens ouvrent des hôpitaux, les gens ouvrent des centres de santé, mais quand vous entrez à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas de spécialistes, il n'y a pas d'échographe, il n'y a pas de dentisterie,
il n'y a pas l'immeuble là.
Ouais. Et donc, on a fait une enquête avec l'OMS, donc on les appelle les enquêtes SARA, c'est des enquêtes qui jaugent ce qu'on appelle la disponibilité des services. Bon, on se rend compte que en RDC, moins de 30% des structures de santé disposent d'un paquet minimum de services de qualité. Et donc, la plupart, c'est des bâtiments, mais quand vous entrez à l'intérieur, ben, c'est l'ordonnance qu'on vous donne parce qu'il n'y a pas de médicaments. Ben, on vous refait chez les spécialistes qui va venir, je sais pas, dans 2 mois. Et donc, là aussi, il faudra, à la fois quand vous multipliez le nombre de structures pour atteindre les populations, vous devez aussi vous assurer que dans chaque hôpital qu'on ouvre, on a un paquet de services minimum pour pouvoir atteindre les besoins de population. Et ça, c'est donc ajouter les services de chirurgie, de planification familiale, d'accouchement assisté, de consultation prénatale. Et dans des pays comme les nôtres, déjà, il faut s'attaquer au fait que nous n'avons pas beaucoup de services mère-enfant. Ouais. Parce que la mortalité est très élevée, surtout chez la mère et chez les enfants de moins de 5 ans. Ouais. Donc ça, c'est le défi. Donc, travaillons sur comment on assure la disponibilité d'un paquet de services de qualité. Ça veut dire du personnel de santé formé, des médicaments de qualité, du matériel de qualité, mais aussi tout ce qui va avec, donc l'infrastructure, le confort.
Ce problème.
Et finalement, la troisième dimension, c'est le coût. Lorsque vous dites que nous voulons que les soins soient accessibles financièrement, il faut pas oublier que chaque soin de qualité a un coût. Donc il faudra qu'il y ait des subventions. Il faudra qu'il y ait quelqu'un qui paye pour assurer justement que si par exemple Georges demande $100 pour un accouchement, vous rendez compte que oui, mais ça, c'est ce que ça demande, mais que les gens ne peuvent pas payer $100. Nous voulons que les gens payent $10. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de rembourser à Georges les $90 pour permettre à ce que Georges, finalement, après avoir presté, soit capable de réacheter les médicaments, de payer le personnel. Ouais. Et donc, on est encore très loin et il faut diminuer le fardeau financier sur les ménages parce qu'aujourd'hui, les gens meurent faute des moyens. Vous êtes malade, vous faites soigner à la maison, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital et la mortalité est plus communautaire qu'institutionnelle. Donc, les chiffres de mortalité que vous voyez aujourd'hui sont en fait très, très, très biaisés parce qu'en fait, les gens meurent à la maison. On a vu avec la Covid, la plupart des gens qui mouraient à la maison, on ne savait même pas les dénombrer. Voilà, ça c'est le premier élément. Mais le deuxième élément dans le paiement, c'est aussi éviter le paiement direct. Ça veut dire, il faut payer quand on est malade. Mais c'est pousser les gens à la solidarité financière, mettez des ressources à côté, cotiser dans une mutuelle, pour que quand vous êtes malade, vous ne savez pas quand ça vous prend, quand en arrivant, qu'on vous soigne sans vous dire, monsieur, l'argent de la fiche, monsieur, l'argent du médicament. Voilà les trois dimensions sur lesquelles nous devons travailler très rapidement. Je vous ai élucidé quelques défis qui sont pratiquement des défis partagés par
nous. Georges, j'avais une question. Georges, vas-y d'abord.
Oui, les défis sont nombreux. Merci, docteur, pour ce panorama sur l'état de santé dans nos pays. Moi, je n'aime pas quand on qualifie un peu les populations de pauvres, très pauves. Est-ce que vous êtes spécialiste vous êtes diplômé en leadership. Est-ce que c'est un problème de leadership dans nos pays ou bien un problème de financement? Parce que, comme vous l'avez dit, ici, au moment où je vous parle, moi, j'ai encore des factures, n'est-ce pas, médicales qui sont arrivées à la maison.
Exactement.
Comment vous dites, dans le domaine médical, souvent on dit le serment d'Hippocrate, on soigne avant d'exiger le paiement.
Exactement.
Mais dans nos pays, souvent, quand les gens arrivent, on vous demande de payer d'abord. Mais est-ce que c'est un problème d'organisation, selon vous? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que les leaders, les chefs d'État, les dirigeants essayent d'organiser au niveau de la santé pour que les populations soient à l'aise, pour que les populations aient accès à
exactement
la santé?
Exactement. Trois très belles questions, Georges. Donc, trois grandes dimensions dedans. La première dimension, d'abord, c'est que tu as raison. La pauvreté est une conséquence, justement. Donc, toute personne a une potentialité. Vous savez, dans nos pays, prenons la RDC, on a toutes ces richesses que nous connaissons, mais il faut justement que les gens comprennent qu'il faut qu'on travaille sur la transformation, pousser les gens à dire, ok, nous pouvons utiliser l'eau, nous pouvons utiliser la forêt, nous pouvons utiliser la terre pour pouvoir produire des richesses. Mais encore une fois de plus, quand vous regardez, vous faites le diagnostic de la pauvreté, c'est aussi lié justement à cette mentalité où les gens pensent que tout doit venir d'ailleurs, mais aussi vous avez des disparités, où vous avez des communautés qui sont résilientes et qui produisent de l'agriculture, dans l'agriculture, des communautés qui produisent dans la pêche, qui investissent par exemple dans le commerce et qui arrivent justement à avoir des revenus élevés. Donc, encore une fois de plus, la question de la pauvreté est une question très holistique qu'il faut voir sur comment on facilite les capacités des communautés locales à pouvoir être résilientes et à pouvoir produire des revenus, ces revenus qui permettent d'avoir accès aux biens et services de base, l'éducation, la santé. Première dimension. Mais la deuxième dimension, justement, il faut repositionner la santé. Vous savez, je vous ai donné d'abord un exemple de ce que les gouvernements allouent comme budget à la santé. Mais même avec l'éducation. Aujourd'hui, il ne faut plus voir la santé comme un secteur de dépenses. La santé, c'est un secteur d'investissement. Parce qu'une population en bonne santé, c'est une population productive. Donc, autant la priorité pour les États, c'est la sécurité, ce sont les infrastructures, autant la santé doit être prioritaire. Vous ne pouvez pas développer le capital humain d'un pays si vous n'investissez pas dans la santé. C'est connu. C'est connu que le grand développement des pays comme la Chine, la Corée, c'est passé par le développement du capital humain. Ça veut dire des hommes capables de transformer, des hommes capables de produire. Et donc, il faut aujourd'hui, c'est comme ça, vous avez vu, par exemple, aux assemblées des Nations Unies, on a repositionné la santé en disant, écoutez, chers chefs d'État, investissez dans la santé. Vous avez des populations productives. Ces populations qui vont produire vont justement contribuer à la croissance économique. Et donc, c'est très important de ne plus considérer la santé comme un domaine de dépenses, mais la santé comme un domaine d'investissement. Mmh. Pour chaque dollar investi dans la santé, vous avez 3-4 dollars de bénéfices en termes de personnes qui vont devoir travailler. C'est une deuxième dimension qu'il ne faut pas oublier. Ben, troisième dimension, ça appelle à la gouvernance, de manière plus globale. Il faut avouer que nos pays n'ont, vraiment la bonne gouvernance. Nos pays ne manquent pas les moyens. Mais quand vous faites le diagnostic de la manière dont les moyens sont gérés, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une déperdition assez accrue des capitaux. Et donc, vous avez nos populations, c'est quoi? C'est que vous avez des masses très pauvres. En fait, quand je dis pauvres, comprenez, c'est des gens qui n'ont pas accès aux services de base, versus des corpuscules de personnes qui ont tout. Et donc, dans un système où on met en place l'équité, où on gère bien, on redistribue parce que, par solidarité financière, on sait qu'il y a des provinces pauvres, des provinces riches, il y a des riches, il y a des pauvres, c'est toujours comme ça que ça se passe dans toute société. Ouais. Il y a moyen d'avoir des redistributions de ressources bien pour permettre à ce que le minimum ne manque pas à chacun. Ouais.
Et ça, c'est très important, et je pense que ce que je ne comprends pas, et ça, c'est entre parenthèses, ce n'est pas une question, je comprends pas comment ces mêmes personnes qui gouvernent ces pays, qui sont des pays riches, mais quand ils sont malades, ils vont se faire soigner à l'étranger.
Mais il faut avouer quand même qu'il y a des efforts maintenant. Je salue par exemple avec l'actuel chef de l'État. Il y a quand même des efforts. On a vu par exemple que finalement la CSU est devenue une politique du gouvernement. Le président en a fait son cheval de bataille. Il y a des ressources maintenant de pays qui commencent à être injectées dans la santé. Vous avez par exemple suivi qu'on a lancé le programme de la gratuité de la maternité avec l'argent de l'État et les bailleurs de fonds comme la Banque mondiale commencent à venir soutenir.
Et vous qui êtes là, continuez bien sûr.
Exactement, mais surtout de l'autre côté, il faudrait que ça soit une question d'intérêt collectif et que tout le monde se dise la santé de nos populations, c'est notre affaire, parce que nous qui sommes là demain, ce pays va être géré par ceux qui viennent.
Mais justement, peut-être pour revenir à ce que vous avez dit, si on a demandé au chef d'État au moins 15% pour la santé, vous dites chez nous c'est peut-être dans les 10%, mais combien arrive vraiment
les exécutions.
L'exécution.
Et là tu as deux leçons apprises. La première leçon, c'est déjà, tu as raison, on vote un budget, ça c'est une chose. Maintenant, il faut exécuter ce budget. On a constaté, quand on fait les études de dépenses en santé, ce qu'on appelle les comptes nationaux de la santé, on exécute presque autour de la moitié. Le reste, ça c'est exécuté pour autre chose. C'est déjà beaucoup faire un effort pour que ce qui est prévu soit déjà décaissé totalement.
Absolument.
Donc les 8%, les 9% soient décaissés totalement. Ça, c'est la première dimension. Mais la deuxième dimension aussi, c'est que quand on décaisse, comment on gère? C'est ça le problème aussi. C'est que quand vous allez visiter aujourd'hui les formations sanitaires, vous vous rendez compte que même le peu là qu'on a décaissé, mais il est très mal géré. Les gens ne sont pas formés. Il n'y a pas d'outils de gestion. Ouais. Et par moment, vous arrivez dans un hôpital qui a reçu les financements de médicaments, mais il n'y a pas de médicaments. On fait des ordonnances. Donc, c'est toute cette. Roger en parlait tout à l'heure. Georges plutôt en parlait tout à l'heure. Donc, il faut mettre en place un cadre de gouvernance et surtout une traçabilité qui, justement, a provoqué cette idée de mettre en place ce modèle de financement qu'on appelle le financement basé sur la performance. Ça veut dire, en d'autres termes, vous financez un prestataire des services, non pas parce qu'il existe, mais parce qu'il a produit un service. Ok, vous êtes là, vous dites, Georges, si tu produis un accouchement, tu as $1. Tu vaccines un enfant, tu as $2. À la fin du mois, combien d'accouchements tu as assisté? Combien d'enfants vaccinés tu as enregistrer? Et sur cette base, tu reçois un paiement de l'output. Et ça change justement la donne parce que ça pousse les gens aux incitations. Et ça vous dit, si je ne n'assiste pas, si je ne vaccine pas, mais je n'aurai pas de l'argent. Et celui qui le fera en aura. Et donc, c'est tout un changement de paradigme qu'il faut commencer à introduire dans le modèle de financement pour les pays en voie de développement.
À ce cas, nous faisons intervention au capitalisme de venir aider notre capacité de fonctionner dans ces affaires.
Non, c'est qui est vrai, ce que Koumou, on a besoin de ressources pour pouvoir faire fonctionner un secteur comme la santé. Tu sais, la santé, c'est pas un secteur marchand.
Mais docteur, les ressources sont là.
La gouvernance. Je reviens sur ça. J'insiste en disant, il y a deux, vous n'oubliez pas deux choses. On doit augmenter la part des ressources allouées à la santé. le secteur c'est de la santé.
Il faut investir, comme l'a dit, dans la santé.
Deux, les ressources qui sont là, il faut bien les gérer.
Il faut bien les gérer.
Oui, oui. Donc, parce qu'avant, c'était augmentons. Quand on demandait au chef d'État à Abuja en 2001, ça fait déjà 22 ans, augmenter votre budget alloué à la santé, ça c'est une chose. On peut augmenter. Mais attention! Il l'a dit très bien. Comment on exécute
Comme
et comment on gère. Et c'est là justement qu'on voit il y a des déperditions énormes. Et justement, c'est ce qui explique aujourd'hui, même avec le financement existant, je peux vous donner un exemple, la dépense en santé est de 21 dollars par habitant par an. Ouais. Ça veut dire que dans RDC, c'est 2 milliards. Donc, versus quand vous regardez la mortalité matérielle infantile, vous posez la question, vous posez une adéquation.
Docteur, vous quittez les États-Unis quand? Parce que vous, on peut vous garder ici 24 heures. Il y a tellement beaucoup de questions ici, parce que je vous rappelle que j'avais au moins plus de 30 questions sur le leadership, parce qu'il faut le dire, que le docteur organise plusieurs éditions de formation gratuite alors, et aussi d'ailleurs de LDP, ça se dit.
Oui, leadership.
Et mon frère ici et moi, la VOA nous a donné beaucoup de formations de leadership. On a eu
super.
Du diplôme de leadership.
C'est super.
C'est pourquoi d'ailleurs que nous sommes là. Mais le temps nous fait défaut parce qu'on a 4 minutes.
Oh.
On va vraiment finir l'émission. C'est pourquoi je demande quand est-ce que vous quittez les États-Unis. Ce demain?
Samedi.
Mais
soir.
On va essayer de vous avoir sur Skype.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de questions sur leadership.
Oui, comme vous voulez. Je peux revenir aussi.
Oui. On a vraiment beaucoup de questions.
C'est l'occasion de pouvoir.
Mais le point, quand vous
et j'aurais bien voulu qu'on en parle.
Un docteur, un professeur, quand il parle, on ne peut pas l'arrêter.
On ne peut pas arrêter.
J'aimerais bien parler.
Vous parlez tellement bien. Mais docteur, merci beaucoup, docteur Michel. C'est vraiment un honneur, un plaisir de vous entendre ici. Et les auditeurs, les téléspectateurs sont très, très contents de vous entendre. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de santé publique et de couverture sanitaire universelle. Vous faites beaucoup, vous êtes écrivain, vous avez publié des livres, mais aussi vous donnez cette formation. Vous êtes vraiment un candidat pour notre émission RM Show, n'est-ce pas?
Moi, je suis disponible, parce que en fait, je disais à quelqu'un, si vous ne dites pas ce qu'on fait, en réalité, nous, on cesse de transmettre.
Ouais, ça,
donc,
c'est vrai.
On n'existe que
Absolument.
Par vous.
Ça, c'est vrai. Michel, on va écouter cette chanson-là d'un Kumu, parce que c'est laquelle? Joue un peu, je veux voir c'est laquelle. Parce qu'il y a une chanson que je veux d'un Kumu. Je veux, si ça va pas, je vais te dire c'est quoi. Parce qu'il y a une chanson d'un Kumu, je veux qu'il puisse danser pour nous. Non, c'est pas celui-là. Joue un autre. Voilà, celui-là est trop calme. Il y a un qui te fait vraiment bouger. Essaye l'autre après. Ouais, je savais que c'était peut-être celui-là. Il y a une chanson d'un Kumu que j'aime.
Zoalo Kolo.
Et je pense Zoalo Kolo, mais c'est que ce n'est pas écrit là. C'est ça?
Non. Ça, c'est live.
Ça, c'est live. Un autre. Une autre encore. Il y a un quatrième après. On va à un autre. Pas celui-là. On quitte celui-ci.
Musicians living and working in New York City. Tonight's performance is by the one and only Kumu Katale, the Lifelong Band Project. Kumu describes his music as Rumbian funk, and let me tell you, you're in for a treat.
Katalaï, à Washington DC en tout cas. Je sais qu'il y a beaucoup de performances ici pour ou des shows aujourd'hui, hein, et enfin cette semaine.
Oui.
Demain
vendredi, nous serons à Galerie Article 15.
Ouais, c'est à Georgetown.
Georgetown for the night Arts All Night.
Art All Night, donc c'est l'art et de la musique. Moi, quand tu es là, moi je suis là.
Ouais. En allant aussi, j'allais dire que l'artiste est là pour simplifier toutes ces questions complexes que le docteur parlait. Donc, c'est notre job
de vous faire passer les messages.
Faire passer les messages et simplifier toutes ces théories complexes.
Je vous rappelle que Kumu lui-même, c'est un professeur. C'est pourquoi il sait comment dire ça.
Et on a besoin de ça. Hein, parce
exactement.
Justement, c'est
merci beaucoup, les amis. Merci à Michel Joseph. Merci à Nick. Merci infiniment à Rob McLean. Merci à Joselle. Merci à vous tous. Encore une fois, merci au docteur Michel Nouveau. Vous dit merci à Kumu Katala et Jean-Louis Mafema, merci. Merci à Georges Léonard Sagnon.
Merci.
Malheureusement, la radio, on décolle, on atterrit, on n'a pas le temps. Mais les amis, on ne peut que vous dire, God bless, peace Africa.